réplique face à la Russie avec Galia Ackermann et Hubert Védrine. Le 27 août dernier, lors de son discours d'ouverture de la conférence annuelle des ambassadeurs et ambassadrices, le président de la République française, Emmanuel Macron, a notamment déclaré « Je crois qu'il nous faut construire une nouvelle relation de confiance et de sécurité en Europe, parce que le continent européen ne sera jamais stable, ne sera jamais en sécurité, si nous ne pacifions pas et ne clarifions pas nos relations avec la Russie. » Une semaine auparavant, le chef de l'État avait reçu Vladimir Poutine au fort de Brégançon. Et le 9 septembre, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et la ministre de la Défense, Florence Parly, se sont rendus à Moscou pour rencontrer leurs homologues, Sergueï Lavrov et Sergueï Shoigu, dans le cadre d'une réunion du comité consultatif de coopération et de sécurité. Après une période de tension provoquée par l'annexion de la Crimée et la guerre en Ukraine, on peut donc parler, avec le journaliste du Monde Marc Semo, d'un tournant russe de la politique française. À mes deux invités, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine et l'historienne Galia Ackermann, je demanderai pour commencer ce qu'ils pensent d'un tel tournant. Faut-il s'en inquiéter, comme d'un abandon des principes, ou au contraire s'en réjouir, comme d'un retour au réalisme, Hubert Védrine.
Personnellement, je m'en réjouis. J'attends ça depuis un certain temps. J'ai d'ailleurs dit ça dans le Figaro au mois d'août, puis à d'autres occasions. Je trouve depuis plusieurs années complètement absurde qu'on ait avec la Russie des rapports plus mauvais, plus méfiants, plus inquiets, plus stériles qu'avec l'URSS, qui était beaucoup plus menaçante, qui s'ingérait beaucoup plus, qui avait un arsenal encore plus gros que Poutine. Et malgré ça, il y a quand même eu, à partir de l'époque Nixon-Kissinger, puis après tous les autres, jusqu'à Reagan et Bush père, des négociations qui n'ont jamais affaibli l'Occident, au contraire. Bon, donc je trouve très bien de sortir de ce qui est à mes yeux une impasse de sortir de ce que j'appelle l'irréal politique, qui nous a mis dans une sorte de corner, quoi. Et je ne vois pas du tout un abandon des principes, si ce n'est l'abandon du principe d'irréalité ou d'illusion, qui ne nous conduit à rien. Donc, je suis dans des positions stériles. Et je trouve ça très, très bien. J'approuve absolument le président Macron de tenter ça. Naturellement, on en parlera après. Ça doit se faire avec une pensée, une arrière-pensée, un calcul, une intention, avec énormément de vigilance et de prudence. Mais je crois qu'il faut tenter ça dans notre intérêt.
Oui, mais fallait-il passer par profits et pertes, par exemple, Hubert Védrine, l'annexion de la Crimée ? Parce que s'il y a eu tension et même quasi rupture de dialogue, c'est bien pour cette raison précise, entre autres.
Alors on pourrait revenir, mais on n'aura peut-être pas le temps, sur l'ensemble de ce qui était raté, à mon avis, par les Occidentaux, à partir, non pas de la chute du mur, qui ne date, dont l'importance est exagérée, mais la fin de l'URSS. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent que les torts sont partagés. Dans cette affaire, il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de loupés, beaucoup de prétentions, d'arrogance, d'hubris, de mépris stupide. Après une sorte de fureur des Occidentaux en voyant que les Russes sont restés des Russes et sont pas devenus des gentils sociodémocrates scandinaves aisés à manipuler. Bon, il y a plein d'erreurs. Et même des gens comme Kissinger ou Brzezinski ont souvent dit qu'il y avait eu une erreur, même en termes de réalisme pur et dur. Et je pense qu'on aurait pu éviter l'engrenage qui a conduit à cette annexion, ce qui s'est passé en Ukraine et en Crimée. Après, il s'agit pas du tout de reconnaître quoi que ce soit. D'ailleurs, quand il y avait les grandes négociations avec l'Union soviétique, l'Occident n'a jamais reconnu l'annexion des pays baltes. Jamais. Donc il n'y a aucun abandon. On n'abandonne rien. On abandonne des postures chimériques qui ne conduisent à rien. Mais comme je le redis, il faut faire ça évidemment de façon très 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 prudente, mais il faut le tenter.
Galia Ackermann, quel est votre point de vue ?
Mon point de vue a été exprimé dans un papier que j'ai publié avec Françoise Thom dans Le Monde et qui disait que les conditions n'étaient pas réunies encore pour ce tournant russe parce que le problème de Poutine, et il ne s'agit pas de... il faut quand même distinguer entre la Russie et Poutine, entre le peuple, la nation... et son président et ce régime. Et donc, le tournant, il me semble, ne serait réellement possible que si la Russie commençait aussi à admettre certains de ses torts. Or, elle n'a jamais rien reconnu. C'est-à-dire, elle n'a pas reconnu même l'annexion de la Crimée, elle appelle ça réunification. Elle n'a pas reconnu d'être partie prenante dans la guerre du Donbass. Elle dit que la Russie a exactement la même position comme la France et l'Allemagne, c'est-à-dire ce sont des observateurs ou des gens qui sont des médiateurs, mais que le conflit est entre Ukrainiens et Ukrainiens. Elle n'a pas reconnu l'empoisonnement des Skripal, n'a pas reconnu l'ingérence dans toutes sortes d'élections, etc., etc. Et donc, oui, on peut parler avec la Russie, bien sûr, mais parler de quoi, sur quel ton, etc. Et je pense qu'il est très difficile de parler réellement et de construire encore moins la sécurité commune avec un partenaire qui vous ment, tout simplement ment. Ce qui est tout à fait clair dans le cas de l'Ukraine, mais aussi dans le cas des ingérences, sont des choses avouées. L'abattage de l'avion malaisien, etc.
Ah oui, c'est ça. L'avion malaisien a été abattu...
Au-dessus du ciel de...
Séparatistes, semble-t-il.
Eh bien, apparemment, d'après différentes enquêtes, on a pu établir, les Hollandais ont pu établir qu'en fait, c'était une... batterie, une sorte d'installation lance-missile qui a été transférée de Russie sur le territoire ukrainien. On ne sait pas pourquoi, quel était le vrai objectif de ce tir, parce que certainement ce n'était pas l'idée d'abattre un avion de ligne avec 298 civils à bord. Mais en tout cas, ça a été fait. Et ensuite, cette batterie a été retirée. Maintenant, tout a été retracé et donc on attend le procès. Donc, ce que je dis, c'est que oui, dans l'idéal, pour moi, vous savez, Monsieur Vedrine, là, je suis vraiment pas d'accord avec vous parce que vous parliez des sanctions et de la confrontation avec la Russie, une sorte de confrontation comme d'une irréelle politique. Je pense au contraire que l'irréel politique est de penser qu'on peut construire une sécurité européenne qui ne nous mettrait pas en danger et en relation soumise avec une puissance redoutable qu'est la Russie. Bien sûr, il faut voir que Donald Trump y est pour beaucoup, parce que si on avait le partenariat euro-atlantique comme il avait existé pendant toute la période... après la guerre, peut-être on n'en serait pas là. Trump joue une politique extrêmement destructrice. Et donc, je comprends le désir du président Macron de s'appuyer sur une autre force. Ça a toujours été un peu la position de la France, position gaulliste. Mais, encore une fois, il me semble que les conditions ne sont pas réunies. Voilà.
Alors, c'est vous qui êtes accusé de promouvoir une irréelle politique en ne tenant pas compte
de la volonté de la Russie. C'est un échange. Ce que j'appelle l'irréal politique, c'est pas lié spécialement à la Russie. C'est l'idée que les Occidentaux ont eu après la fin de l'URSS qu'ils étaient les maîtres du monde. C'est l'hubris, globalement. Vous savez, fin de l'histoire, Fukuyama. Donc on peut imposer à tout le monde nos valeurs, à nos yeux par définition universelle, par des sermons, des discussions, des discours, s'il le faut des sanctions, si ça suffit pas l'ingérence, si ça suffit pas la guerre, etc. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus globalement, sinon il n'y aurait pas d'émergents. Et si les Occidentaux pouvaient revenir sous une autre forme à la longue période de colonisation du monde entier, il est évident qu'on aurait des démocraties partout, que la Chine ne serait pas en train de monter avec les problèmes que ça pose, que la Russie serait devenue, comme je l'ai dit, une gentille démocratie scandinave, bon, etc. Tout ça, ce sont des illusions trompeuses, malhonnête. Malhonnête. Parce que l'Occident passe son temps à faire croire à des gens qui vont venir à leur secours, ce qu'on est incapable de faire, parce que les opinions ne suivent pas. On l'a vu dans des tas d'épisodes cruels à propos des trois pays qui ont une capacité militaire en Occident, c'est-à-dire les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Donc pour moi, l'irréel politique est global, hein, c'est pas que sur la Russie. Sur la Russie, on pourrait distinguer les périodes. Je pense comme Kissinger et Brzezinski, hein, que on a été très très maladroit, notamment pendant les deux premiers mandats de Poutine et Medvedev. Alors après, c'est différent. Poutine revient, troisième mandat, il adopte une position beaucoup plus dure et très anti-occidentale qui le rend encore plus populaire à l'époque. Et donc le Poutine des troisième et quatrième mandats est plus compliqué à traiter, même en termes réalistes, mais il est en partie le résultat de notre politique par rapport à ça. Et même quelqu'un comme Brzezinski, polonais d'origine, très anti-russe, qui en plus c'est l'homme qui avait conçu le plan qui a planté l'URSS en Afghanistan, donc c'est pas un tendre. Donc avant sa mort, il disait « on a eu tort sur l'Ukraine ». C'est évident qu'il fallait pas demander à ce qu'elle entre dans l'OTAN, mais élaborer un statut de neutralité. Donc il y a tout un travail à faire sur nous, et ce n'est pas que Poutine. Et puis de toute façon, il faut voir, j'entends bien vos arguments, il faut voir du point de vue des responsables, ils ont le choix entre quoi et quoi. Et Macron, il veut pas devenir l'ami de la Russie, hein. Il n'a pas d'illusion sur Poutine. Il s'agit pas de réchauffer les choses, il s'agit de sortir d'une impasse qui est stérile pour nous.
Eh bien, je voudrais qu'on s'arrête d'abord à la question de l'Ukraine. Hubert Virginie vient de dire que l'Occident a des responsabilités, nous avons eu tort sur l'Ukraine, et ensuite que nous parlions éventuellement des visées de Poutine sur l'Europe, de son rapport à l'Europe. Que veut-il? Qu'attend-il? Quelle politique est la sienne par-delà les déclarations et ce que vous appelez les mensonges, Galia Ackermann? Alors, l'Ukraine, est-ce que nous avons mis de l'huile sur le feu? Que s'est-il passé qui a mené, si vous voulez, à cette situation de confrontation entre la Russie et l'Ukraine?
L'Ukraine est un sujet extrêmement compliqué et c'est vrai que en Ukraine il y a des gens qui pensent de façon extrêmement différente. Il y a une grande différence entre la population de l'est sud-est de l'Ukraine et le reste du pays. Tout ça est vrai, mais je crois que l'Ukraine a aussi montré, et pas seulement en 2013-2014, mais bien avant, avec le premier Maïdan, qu'elle avait quand même une aspiration européenne. Et c'est vrai aussi que si vous regardez simplement sur la carte, sur une map monde, vous verrez que en prenant l'Europe qui s'arrête à l'Oural, quand même pas Vladivostok, comme l'a dit le président Macron, on voit que l'Ukraine se trouve exactement au milieu de cette Europe. Et donc, déjà en 2004-2005, il y a eu cette protestation massive contre les résultats truqués des élections. Et ensuite, il y a eu le Maïdan. Je ne pense pas, très honnêtement, vous savez, je suis allée énormément en Ukraine. J'ai été peut-être, je ne sais pas, 30 fois, 40 fois en Ukraine. Parfois, j'ai vécu des périodes entières en Ukraine. Donc, je pense que je connais assez bien ce pays. Et on ne peut pas nier le fait que c'était un soulèvement populaire, je parle du dernier Maïdan, oui. C'est-à-dire la révolte.
Ce qui a causé justement ce soulèvement, cette révolution de Maïdan, c'est la décision soudaine de Yanukovych, le président ukrainien à l'époque, de cesser les négociations pas d'adhésion à l'Union européenne, mais pour un accord entre l'Ukraine et l'Union européenne.
Absolument.
Déseuropéanisation soudaine a effectivement suscité la révolte d'une grande partie du peuple, et notamment à Kiev. C'est bien cela.
Absolument. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, on parlait même pas de l'adhésion à l'Union européenne. Non. Je pense que les réalistes en Ukraine comprenaient parfaitement que l'Ukraine avait un très long chemin à parcourir avant d'adhérer. Mais c'était une aspiration à vivre de façon européenne, avec une justice qui est une justice, avec la lutte anticorruption. Bon, ça, c'était assez raté dans les années qui ont suivi, etc. Et c'était une révolte qui ne se voulait pas violente. Donc je pense que si la Russie n'était pas intervenue en annexant la Crimée, ensuite en fomentant la guerre dans le Donbass, il ne se serait rien passé de très dramatique. Au pire, ce nouveau pouvoir aurait cessé les accords du stationnement de la flotte navale dans la région de Crimée. On était encore à des années-lumière de l'adhésion à l'OTAN ou de l'adhésion à l'Union européenne. Ce n'était pas la perspective proche. C'est la Russie qui a présenté ça de cette manière.
Mais sans intervention de la Russie, la scission n'était-elle pas inévitable avec l'Est de l'Ukraine, avec ce qui allait devenir les deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Luhansk? Parce que, vous le dites vous-même, il y a une majorité de russophones dans ces régions-là. Donc l'Ukraine aurait-elle pu continuer, après Maïdan, à être une république homogène, ou n'allait-on pas nécessairement vers une division qui a pris des formes tragiques que l'on sait, Galia Ackermann?
J'ai l'impression que vous vous trompez réellement, parce que vous présentez les choses comme si c'était grâce à cette intervention russe qui donc a pu contribuer à l'instauration des régimes séparatistes dans les deux républiques Donetsk et Lugansk, que l'Ukraine ait pu rester entière. Je crois que c'est exactement l'inverse. Vous savez, la population du Donbass, en effet, elle est en grande partie russophone, même il y a beaucoup de Russes ethniques, etc. Mais ce n'est pas complètement différent, quelque chose d'absolument inouï par rapport aux régions comme Kharkov, comme Odessa, etc. Oui, il y aurait probablement certains heurts, etc., etc. Mais comme vous avez pu voir dans les autres parties de l'Ukraine, c'est quand même un pouvoir ukrainien et ça fonctionne, tout a été réglé.
D'accord.
Donc, faut franchement pas penser que sans l'intervention russe, il se serait produit une scission quelconque. Au contraire, parce que maintenant, ces deux républiques qui sont gérées, excusez-moi l'expression, par des bandits, dont certains ont été éliminés, d'autres sont venus à leur place, et contrôlés par la Russie. C'est un gros problème aussi pour la Russie, non seulement pour l'Ukraine.
Oui, Hubert Védrine. En quoi les Occidentaux ont-ils une part de responsabilité dans la situation actuelle en Ukraine? Il est vrai que la propagande russe a parlé de fascisme, de nazisme même, à propos des manifestants de Maïdan. On y a vu la main de la CIA, mais y a-t-il une part de vérité dans un discours comme celui-là?
Alors moi je remonte un peu en amont, hein. Après la fin de l'URSS, donc la fin de la domination de l'URSS sur les pseudo-démocraties populaires et par ailleurs sur l'Ukraine, qui était dans la Russie depuis plus longtemps que la Bretagne est en France, hein. Vous vous rappelez de ça? Il y a eu un débat en Occident sur l'élargissement de l'OTAN. George Bush père, qui était par ailleurs un très bon président, et Baker, son secrétaire d'État, ont laissé croire à Gorbatchev que l'élargissement de l'OTAN n'était pas... pas évident, pas sûr, pas indispensable. Ça n'a pas été mis dans un traité, mais il y a eu une croyance par rapport à ça. Après, il y a évidemment eu des demandes pressantes des pays qui échappaient à l'emprise de l'URSS de se réfugier dans le commissariat le plus proche, c'est-à-dire l'OTAN. Et la réponse devait être évidemment oui pour les pays baltes, pour la Pologne, etc. Sur l'Ukraine, il y a toujours eu un débat en Occident, en disant comment on traite ce sujet particulier, compte tenu des différences profondes, pas forcément les divisions, enfin les différences en Ukraine, d'où ce que j'ai dit sur Brzezinski, qui est très important. Parce que Brzezinski, c'est pas un réel politicien 100% comme Kissinger. Il a été très interventionniste, très, à sa façon, droit de l'hommiste. Il a été révolutionnaire dans ce sens-là. Et lui, il a défendu l'idée de l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine. Donc bien avant la réaction russe. Il y a une énorme propagande occidentale disant on va mettre l'Ukraine dans l'OTAN. Toute la machinerie OTAN, qui en plus a besoin sans arrêt de se trouver des raisons de perdurer, bon, a mis ça en avant. Les Russes étant plutôt calmes au début. Poutine 1, Poutine 2, Medvedev, par rapport à ça. Même si certains spécialistes disaient C'est une erreur absolue. Jamais les Russes laisseront partir la base de Sébastopol. Hein, c'est comme s'il y avait une invasion russe pour éliminer Guantanamo, vous voyez, à Cuba. Donc un jour ou l'autre, on ne sait pas comment, les Russes vont bloquer le truc. Donc il faut prendre les devants, donc il faut arrêter de dire ça. Donc il faut un statut de neutralité intelligent avec une double garantie par rapport à ça. Et ça n'a pas manqué. Et quand il y a eu l'accord d'association, très critiqué par beaucoup de responsables européens d'avant cette équipe-là en Europe, disant c'est un accord d'association qui est mal conçu, il oblige absolument l'Ukraine à couper tous les liens économiques avec la Russie. C'est impossible. Pas pour toute l'Ukraine, enfin pour une partie de l'Ukraine, notamment la partie Ukraine industrialisée. Donc il y a eu un débat en Europe en disant c'est un accord de combat, c'est un accord idiot, c'est pas un accord pour régler la question ukrainienne. C'est un accord expansionniste. Bon, alors là-dessus, ça a provoqué une réaction balourde en Ukraine, avec un minuscule pourcentage de dingos fascistes, mais qui doivent représenter 0,1% du mouvement, c'est rien. Sauf qu'il se trouve que dans ce moment-là, certains d'entre eux, et même les nouvelles autorités, ont annoncé l'abolition de l'usage de la langue russe. C'est le prétexte qu'attendait Poutine. Poutine s'est jeté là-dessus. Il a fait l'opération Crimée. Et tout ça aurait pu être abordé autrement. Et alors, c'est vrai que l'idée de la neutralité, que moi je trouve excellente, mais on n'y a pas pensé assez tôt, en fait. La machinerie américaine était tellement sûre d'elle, en fait. C'est tellement évident qu'il fallait élargir l'OTAN jusqu'au bout, qu'il n'y avait plus aucune résistance en face. C'est une époque où la Russie devient peanuts. D'ailleurs, tout ce qu'on dit sur la menace russe est grotesquement exagéré, globalement. Oui. Et la question chinoise n'est pas encore vue, vous voyez, dans cette période-là. Oui, donc il y a des erreurs qui ne sont pas des erreurs condamnables, mais on aurait pu s'y prendre plus intelligemment, en tout cas au début. Alors après, l'opération Ukraine-Crimée, c'est plus compliqué.
Alors là, la Crimée, on va en parler, mais...
Je ne pense pas que ça doive empêcher de sortir de l'impasse stratégique dans laquelle on s'est mis.
D'accord. Mais les insurgés de Maïdan ne pensaient pas, quand ils sont descendus dans la rue, à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ils voulaient une démocratisation.
C'est pas le sujet, c'est toutes les années d'avant. Reprenez, c'est peut-être plus spécialisé, ça. Tout le discours de l'OTAN, tout le discours des Américains, c'est que ça, que ça, que ça. Les insurgés de base, vous l'avez dit très bien, ils veulent vivre à la façon européenne. Et d'ailleurs, c'est évident que même dans une Ukraine neutre, ils vivraient tout à fait de façon européenne.
Oui, ils veulent vivre de façon européenne.
Les deux sont, c'est très compréhensible, mais c'est pas lié. Ça ne répond pas, ça ne dément pas le rappel chronologique que j'ai fait, vous voyez.
D'accord. Alors, venons-en maintenant, avant de parler de l'Europe et des visées de Poutine, enfin, la conception qu'a Poutine de l'Europe et de l'Union européenne, un mot sur la Crimée. C'est-à-dire que la Crimée a été annexée par la Russie. Cette annexion a été très majoritairement approuvée en Russie. Tous les sondages le montrent. Et aussi, elle a été votée, je crois que vous le dites vous-même dans votre livre « Le régime immortel » Galé Ackermann, par 96% des habitants de Crimée. Alors dans des conditions peut-être douteuses, mais je voudrais en savoir plus sur l'histoire de la Crimée. C'est-à-dire, je sais par exemple que la Crimée a été donnée, comme on dit, à l'Ukraine en 1954. Qu'était-elle auparavant? A-t-elle toujours été russe? En savoir plus sur cette région ou sur cette république.
Non, mais la Crimée n'a pas été russe, c'était un khanat tatar qui a existé pendant plusieurs siècles, qui a fait des guerres à l'Empire russe. Et donc, finalement, ça a été conquis qu'au milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que la Crimée est restée sous domination russe, peuplée essentiellement de Tatars, mais comme partout où les Russes élargissaient leur territoire, ils y envoyaient toujours des Russes ethniques qui servaient en quelque sorte d'ossature à l'Empire. Et donc la Crimée a été graduellement très fortement russifié. Il y avait beaucoup de Tatars qui ont émigré avec cette conquête qui a été d'ailleurs très féroce.
Et donc, elle a eu lieu quand, cette conquête?
Ben, je vous dis, au milieu du XVIIIe siècle. Et donc, il y a eu une forte population tatare qui a émigré en Turquie notamment. C'est pour ça qu'à ce jour, le régime turc défend la Crimée, parce que ce sont des populations turcophones, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que en 44, Staline a déporté les Tatars de Crimée, comme d'autres peuples, comme les Tchétchènes, les Ingouches et encore quelques peuples, les Allemands de la Volga, bien sûr. Il les a déportés en Asie centrale de façon extrêmement violente, parce que il considérait que ces peuples étaient coupables de collaboration avec les nazis. Bien sûr, il aurait pu déporter pratiquement tous les peuples qui se sont trouvés sous l'occupation, parce que partout, bien sûr, il y a eu des collaborations, il y a eu des détachements et des divisions SS ou de la Wehrmacht qui ont été formées.
C'est un peu le même raisonnement que les Turcs par rapport aux Arméniens.
Oui.
C'est tout un peuple qui va être complice de notre adversaire principal.
Voilà. Et donc, ils ont été déportés, ils ont été privés de leur terre natale et de formation étatique. Ils ont commencé leur retour. C'était d'ailleurs l'une des premières causes de la dissidence en Russie, le combat des Tatars pour le retour sur leur terre natale. Donc, à partir de ce Gorbatchev, et bien sûr après l'éclatement, on a permis aux Tatars de revenir en Crimée, mais ils y étaient toujours minoritaires, c'est à peu près 15% de la population. Maintenant, ce qui s'est passé en 54, oui, j'ai oublié, donc 44, c'est déportation des Tatars. Mmh. Des Tatars de Crimée, c'est une ethnie à part, hein, les Tatars de Crimée. Et en 54, Khrushchev a décidé de donner la Crimée à l'Ukraine. La décision était d'ailleurs plutôt économique. Elle était aussi un peu symbolique, c'est-à-dire il fallait faire un cadeau à l'Ukraine à l'occasion de 300 ans de la vie commune avec les Russes, au sein de l'Empire russe. Mais c'était surtout aussi économique parce que, étant donné la situation géographique de la Crimée, ses liens naturels économiques sont plutôt avec l'Ukraine qu'avec la Russie, c'est-à-dire elle est dépendante de l'Ukraine en électricité, surtout en eau potable, parce que c'est l'eau du Dniepr. Et donc, économiquement, c'était rentable. Ce n'était absolument pas exceptionnel. Les républiques ont été redéfinies, redistribuées. Leurs frontières ont été modifiées à plusieurs reprises. C'est vrai pour plusieurs républiques. Donc, tant que c'était l'Union soviétique, ça ne représentait aucun problème. Le problème a surgi donc après l'acquisition de l'indépendance par l'Ukraine, parce que c'est vrai que c'était une région très, non seulement russophone, mais proche de la Russie. Il y avait aussi une importante présence militaire là-bas, etc., etc. Et donc, il y avait tout un travail de propagande. Je crois que cette annexion, Poutine a profité d'un instant commode pour le faire, mais cette annexion a été préparée pendant plusieurs années. D'ailleurs, je raconte un peu dans mon livre il y avait toute une propagande sur plusieurs années, des festivals patriotiques, etc., etc., qui se produisaient en Crimée pour la rapprocher, en quelque sorte, de la mère patrie. Voilà l'histoire.
Oui, alors, voilà l'histoire, mais alors, étant donné l'état d'esprit de la majorité des habitants de la Crimée, considérez-vous toujours que cette annexion est un scandale, Galia Ackermann?
Oui, je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'il y a des façons civilisées pour procéder. Si vraiment il était tellement souhaitable pour la population de la Crimée de se joindre à la Russie, il aurait fallu probablement négocier l'Ukraine et la Russie. Comment on fait? Faire des référendums, mais libres. Parce que c'est vrai que 96% ou quelque chose comme ça a voté, mais il faut aussi dire que c'était que 30% de la population qui a pris part à ce vote. Donc, en réalité, il ne s'agit pas du tout de la majorité. Mais je suppose qu'il y aurait peut-être la majorité, même si ça avait été organisé démocratiquement. Mais dans ces cas, il faut négocier parce que la séparation d'une partie du territoire, d'arrachement d'un morceau du tissu économique, etc., etc., ça se négocie, peut-être ça s'achète. peut-être il aurait fallu faire un référendum dans toute l'Ukraine aussi, parce que ça concerne tous les Ukrainiens, pas seulement en Crimée elle-même, etc., etc. Voyez, par exemple, avec la Catalogne, combien d'années ça dure? La Catalogne est-elle indépendante? Sa population le veut. Mais il y a des processus. Et c'est surtout la manière comment ça a été fait qui est totalement antidémocratique et va à l'encontre du droit international.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Bérédine? Est-ce que
moi, j'ai simplement...
Est-ce que la réelle politique consiste à donner acte à la Russie?
Non, pas donner acte, on n'a jamais dit ça. Il ne s'agit pas de reconnaître ni de donner acte, il s'agit de sortir d'une impasse stratégique dans laquelle on s'est mis en Europe, où on est incapable de reconstruire un ensemble de sécurité en Europe. Même Kissinger dit ça. On n'a jamais fait aucun effort depuis la fin de l'URSS pour réassocier la Russie, même si c'est très 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 difficile, hein, à un ensemble de sécurité en Europe. Même des gens comme ça disent ça. Bon, puis je ne vais pas reciter Brzezinski pour la troisième fois. Donc moi je ne parle pas en termes de reconnaissance. Et j'ai cité l'exemple des républiques baltes. Dans les décennies de négociations avec l'URSS, on n'a jamais reconnu. L'URSS n'était pas sympathique. On a jamais oublié les crimes multiples. Et sinon, avec ce raisonnement, Roosevelt et Churchill auraient dit on ne peut pas s'allier avec Staline contre Hitler. Bon, donc j'ajoute simplement deux petites choses. D'abord, quand Khrouchtchev a pris la décision que vous avez rappelée, madame, beaucoup ont dit c'est aussi pour faire oublier le rôle monstrueux qu'il avait joué dans la découlakisation sous Staline. C'est une sorte de génocide, en tout cas de massacre. Il était ukrainien.
Oui, l'Holodomor.
Et donc Staline savait utiliser les nationaux du truc pour porter ses crimes. Donc il y a aussi une sorte de réparation. Et comme vous l'avez dit, c'est au sein de l'URSS. C'est pas un changement de frontière internationale. C'est comme si on changeait une commune entre, je sais pas quoi, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Bon, ça n'a aucune importance internationale à l'époque. Et moi, j'ai su par des diplomates français, allemands et autres, que juste avant, au moment de la fin de l'URSS, il y a eu une rapide discussion entre Yeltsin, qui allait prendre la tête de la Russie, et le premier futur président de l'Ukraine, sur le thème « Réglons ça tout de suite, pour que ça nous explose pas dans les pattes après ». Et ça, c'est l'Ukrainien qui dit ça, qui dit « La Crimée est devenue russe, elle était longtemps tatare, vous l'avez rappelé, elle était russifiée, bon, il disait, c'est russe, on va régler ça pour pas être embêté après ». Et Yeltsin disant à l'époque « Non, la priorité, c'est de détruire l'URSS et de faire partir Gorbatchev ». Après, on verra. Bon, ça, c'est deux choses importantes qui éclairent tout. Mais mon principal propos, c'est que, oui, tout ça est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et moi,
justement,
je ne pense pas qu'il faille être bloqué par ça, mais pour autant, ne rien reconnaître, on n'est pas obligé.
D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Emmanuel Macron, je le citais tout à l'heure, a dit « Le continent européen ne sera jamais stable, ne sera jamais en sécurité si nous ne pacifions pas et ne clarifions pas nos relations avec la Russie. » Mais la Russie a-t-elle l'intention de pacifier ses relations avec l'Europe? J'ai sous les yeux le livre de Michel Etchaninov, Dans la tête de Vladimir Poutine. Il dit que l'un des projet de Poutine pour l'Europe, c'est de prendre la tête du mouvement conservateur en Europe, conservateur au sens poutinien, c'est-à-dire opposé à l'homosexualité, à l'athéisme, au cosmopolitisme, à toute expression de créativité assimilée à un désordre. Et il est vrai que Vladimir Poutine, aujourd'hui, entretient des relations privilégiées avec ce qu'on appelle les partis d'extrême droite, en Europe, même le FPÖ en Autriche, qui après l'affaire d'Ibiza s'en trouve bien mari, mais aussi le Front National en France, la Ligue du Nord, dit-on, en Italie, les démocratures ou les régimes illibéraux d'Europe centrale, ce qui est très surprenant, parce que quand même, l'Europe centrale a eu à pâtir de la présence russe, mais Orban a un tropisme poutinien, de même que le président tchèque, à la différence du premier ministre, mais tout cela tend à prouver que Poutine a des intentions, c'est-à-dire, comment pacifier les relations avec Poutine par des négociations, par un dialogue avec lui, alors même qu'il semblerait viser l'explosion de l'Union européenne.
Et quand l'Occident a commencé à... Je suis désolé, j'ai l'air de répéter sans arrêt, mais quand l'Occident a commencé à négocier sérieusement, un peu après la crise de Cuba, et puis un peu plus après, avec l'URSS, L'URSS prétendait encore qu'elle allait écraser le capitalisme, qu'elle allait éliminer tout ça, qu'elle allait triompher, etc. On n'a jamais pris ça au sérieux.
Mais est-ce qu'on peut pas prendre au sérieux, justement, parce qu'il veut pas écraser, prendre au sérieux les menées de Poutine en Europe?
Non, les menées, c'est une chose.
Hubert Védrine.
Il y a des intentions en faisant de la psychologie. Il y a un manque terrible de confiance en soi de la part des Occidentaux. C'est grotesque. Le vrai problème de l'avenir à long terme, c'est les émergents. C'est le vrai passé qui ne passe pas, c'est l'affaire de la colonisation. C'est la Chine, etc. Bon. C'est pas intelligent de s'enfermer dans une espèce de vision de la Russie comme étant un adversaire terrible, ce que le système militaro-industriel américain entretient sans arrêt. L'OTAN vient d'entretenir ça. Je trouve ça disproportionné, exagéré. Le PIB de la Russie aujourd'hui, c'est entre l'Italie et l'Espagne. C'est pas négligeable, enfin, ça n'a rien à voir par rapport à ça. Bon, qu'il ait des intentions, bah oui, il a dit que celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais que celui qui veut la reconstituer n'a pas de tête. Enfin, c'est compliqué. Mais on s'en fiche de ses intentions, de ses mauvaises intentions. Après tout, il y a toutes sortes de puissances dans le monde qui s'ingèrent dans le système européen qui est tout à fait mou, sans arrêt. Le problème, c'est notre intérêt de construire, de reconstruire un processus et un cadre avec un rapport de force dans lequel nos intérêts sont justement défendus. Et s'il y avait une politique réaliste en Europe par rapport à la Russie, d'abord, je pense qu'il n'y aurait pas eu le processus qui a conduit à ce qui s'est passé en Crimée. Et je pense que Poutine n'aurait pas besoin d'entretenir ces rapports qui sont absolument sans intérêt pour eux, qui conduiront à rien avec les différentes extrêmes droites en Europe. C'est idiot, ça. C'est idiot de leur part. Il ne faut pas être terrorisé par ça. C'est pas un vrai sujet, en fait.
Excusez-moi.
Non, mais c'est pas un vrai sujet géopolitique. C'est un vrai sujet philosophique, politique, intellectuel, tout ce que vous voulez. Mais ça ne répond pas à la question comment on sort de l'impasse et comment on évite qu'au bout du compte, une Russie faible, qui n'a gardé qu'un pouvoir de nuisance résiduelle périphérique, soit absorbée d'une espèce de système chinois à moitié mondial. Il faut le faire avant que les Américains le fassent, que ce soit Trump réélu ou un autre. C'est ça l'urgence géopolitique. Ça ne contredit rien de ce qui est dit avant.
Hein. Ouais.
C'est autre chose.
Galia Kerman.
En total désaccord, je m'excuse.
Bon, alors, exprimez votre désaccord.
Commençons par dire peut-être que ce que M. Védrine a dit au sujet de la Russie, avec le PIB, c'est vrai, avec la puissance militaire, c'est pas vrai, c'est plus vrai. Ça a été vrai il y a quelques années, la Russie a fait une énorme réforme de son armée, elle a prouvé sa puissance de frappe en Syrie. Et c'est un pays qui est en train de mettre en place un système d'armement extrêmement sophistiqué. D'ailleurs, il les vend très volontiers à ses alliés, comme la Turquie ou comme l'Iran. Mais il est prêt aussi, par exemple, à les vendre à l'Arabie Saoudite, comme il l'a proposé récemment après l'attaque sur les champs pétroliers en Arabie Saoudite. Encore une fois, je crois que il faut voir les choses non pas comme elles ont été il y a 10 ans, mais comme elles sont maintenant. Et à partir de 2007, le célèbre discours de Poutine à Munich, on voit qu'il y a une hostilité envers l'Europe, envers l'Occident en général, pas seulement sur le plan moral, mais aussi sur le plan institutionnel. C'est-à-dire, on parle de plus en plus du fait que la démocratie occidentale n'est qu'un leurre, qui en fait, c'est le discours courant, notamment du proche conseiller de Poutine, qu'on considère comme l'éminence grise du régime, Vladislav Surkov, que donc la démocratie est un leurre, qu'en fait, l'Occident est dirigé, gouverné, je ne dis pas par un gouvernement mondial, mais par des forces obscures, par le deep state, un nouveau concept qui est à la mode maintenant, etc., etc.
Et la mode depuis 40 ans, hein.
Oui, mais qui devient populaire maintenant. Vous savez, la Russie, pendant longtemps, n'a pas pris au sérieux l'Union européenne. Vous avez, M. Védrine, écrit une préface pour le livre de Primakov. Moi aussi, je l'ai connu. Et ce qu'on a toujours entendu de sa bouche, il a été pendant assez longtemps l'architecte de la politique étrangère russe, c'est que seules les relations bilatérales sont importantes. Pendant longtemps, très longtemps, les Russes ont considéré que l'Union européenne était une sorte de fiction qui, de toute façon, n'est pas très importante. Ensuite, ils ont changé d'avis en voyant que c'était quand même la première puissance mondiale si on prend le PIB de tous les pays, si on prend en compte la population totale de l'Union européenne, etc. Et donc, l'Union européenne est devenue ennemi à abattre, parce que dans les relations avec n'importe quel pays de l'Union européenne, relations bilatérales, les Russes seront toujours gagnants parce que militairement, ils sont beaucoup plus forts que n'importe quel pays de l'Union européenne à part. Mais ils ne peuvent pas rivaliser avec l'Union européenne si elle représente la vraie unité. Et c'est pour ça que ils ont soutenu en catimini ou pas ou ouvertement tous ceux qui peuvent être séparatistes et avoir des visées séparatistes au sein de l'Union européenne. Et c'est pour cette raison qu'ils ont soutenu et pas marginalement. Vous savez, j'écoute très attentivement ce qui se dit à la télévision russe. Je lis pas mal de presse russe, etc., etc. Il y a eu un vrai engouement, par exemple, assez longtemps. Les relations avec Jean-Marie Le Pen sont très anciennes, mais aussi les relations avec Marine Le Pen, qui a été reçue au Kremlin peu de temps avec les élections. D'ailleurs, je trouve que c'était extrêmement maladroit. Ensuite, les Russes ont misé, à vrai dire, sur Fillon, parce que c'était plus simple et plus prometteur. Ils sont trompés. Et donc, c'est pour cette raison qu'ils soutiennent, c'est pas seulement parce que tous ces mouvements de l'extrême droite et populistes sont proches idéologiquement, mais c'est aussi autant d'outils, autant d'armes pour miner de l'intérieur l'Union européenne. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est crucial. Et donc, quand on parle de la sécurité commune, encore une fois, je pense que dans cette sécurité commune, la Russie sera tellement dominante. C'est d'ailleurs la raison pourquoi on n'a jamais, même quand Yeltsin, il avait des velléités d'adhérer à l'OTAN, mais ça n'a jamais été pris au sérieux. La Russie est trop grande pour qu'elle puisse adhérer à l'OTAN ou à quoi que ce soit.
En tout cas, c'est pas son intention aujourd'hui.
C'est sûrement pas.
Non, sûrement pas. Hubert Védrine, vous vouliez répondre?
Alors, sur la question militaire, personne n'a dit qu'il fallait désarmer l'Occident. Puis l'armée russe, même perfectionnée, même moderne, c'est rien à côté de ce que représentait l'Union soviétique. Si on avait raisonné comme ça, on n'aurait jamais rien négocié avec l'Ur. Jamais. Les négociations étaient finalement bonnes pour l'Occident. Mauvaise pour l'URSS. Bon, les cadres, les processus genre CSCE, ils ont contribué à la dissolution de l'URSS. Donc, naturellement, il faut observer la capacité militaire de la Russie, voir ce qu'elle devient dans certains domaines particuliers, mais il ne faut pas partir d'une espèce de manque de confiance en soi, et politique, idéologique, et militaire, etc. C'est pas le cas, même s'il faut, il faut regarder de près. Et puis, on peut tout à fait, de l'autre côté, maintenir un très bon rapport de force. Quant à la préférence bilatérale, enfin, on va pas être stupéfait et indigné que la Russie fasse comme tous les autres. Toutes les puissances dans le monde font ça. Les Turcs, les Israéliens, les Chinois, bien sûr encore plus les États-Unis, sans arrêt. Ils trouvent assez commode de jouer le bilatéral. De temps en temps, l'Union européenne, si ça sert leurs intérêts, mais enfin, aucun d'entre eux n'a aucune raison d'idéaliser l'Union européenne, qui est menacée d'ailleurs beaucoup plus pour des raisons internes qu'externes. La vraie menace sur la construction européenne, c'est que les peuples ont décroché. Enfin, pas les peuples, les classes populaires, puis les classes moyennes. Je rappelle que Maastricht, qui était un traité très rationnel, il valait mieux une monnaie unique que dépendre que de la zone marque. Bon, c'est passé avec un point d'écart. Donc le vrai problème en Europe, c'est ça. Donc je trouve que rien de tout ça n'est faux, mais tout est exagéré. Et tout nous détourne de l'analyse de nos vrais intérêts.
D'accord. Mais la question que je voudrais vous poser à tous deux, c'est on instaure un vrai dialogue avec la Russie, on sort de ce que vous appelez l'irréal politique Hubert Védrine, mais qu'est-ce qu'on a à y gagner? Qu'est-ce qu'on espère de ce dialogue pour nous-mêmes et pour les autres, notamment pour l'Ukraine?
Alors, non,
Hubert Védrine.
Mais ne parlez pas que de l'Ukraine. Il y a une question sur la sécurité en Europe.
Mais j'ai dit notamment.
Oui, d'accord,
l'Ukraine.
Ok. Exclusivement, très bien.
Pas du tout exclusivement, oui, okay. Pour nous et aussi pour l'Ukraine.
Alors, les réalistes dans mon genre pensent qu'une situation dans laquelle les accords de contrôle désarmement ou de désarmement qui ont été négociés pendant les décennies américano-soviétiques, qui sont abandonnés les uns après les autres, en raison, c'est la faute d'X ou Y, les Américains disent que les Russes ont violé ceci, cela, en même temps on voit bien que c'est pour avoir les mains libres ailleurs en Asie qu'ils le font, bon, il y a tout un ensemble. Le résultat pour nous, c'est qu'on va se retrouver dans quelques années où il n'y a plus aucun accord de maîtrise des armements, ni nucléaire, ni conventionnel, ni rien. On a un intérêt absolument vital à ce qu'on reconstitue un processus et un cadre dans lequel on pourrait discuter avec les Américains. On ne va pas abandonner les Américains en route. C'est vital de les garder. Mais aussi les Russes. Alors, est-ce que les Russes ont essayé d'échapper à ça? Peut-être, on peut dire que, vu la trajectoire qu'ils ont adoptée depuis quelques années, ils ont essayé d'échapper à ça, de garder leur liberté. Mais je pense que Poutine, qui est un homme intelligent et informé, connaît très bien les faiblesses extraordinaires de l'économie russe. Ils n'arrivent toujours pas à transformer les richesses du sous-sol en une économie normale, quoi, développée, etc. Il y a l'angoisse terrible des Russes que vous connaissez bien par rapport à la Sibérie. Entre l'Oural et Vladivostok, il y a 20 millions de gens. Enfin, c'est rien. C'est rien. Bon. Il y a tout ça. Donc, il peut y avoir un petit intérêt du côté russe à entrer dans cette discussion. Discussion. Après, on va leur dire... l'Ukraine, faut donner, mais c'est même à court terme, ça, parce que la France et l'Allemagne tentent de relancer ce qu'on appelait le format Normandie, le processus de Minsk, etc. On verra, on verra. Est-ce que Poutine est entièrement prisonnier maintenant du système de sécurité, qui, comme tous les systèmes de sécurité dans tous les pays du Moyen-Orient, par exemple, préfère garder la tension, s'ils nous ont tout à perdre à bouger, par rapport à ça, ou non? Est-ce qu'il est un peu conscient des risques vrais pour la Russie à moyen et long terme? S'il est un peu conscient, il y a peut-être un petit fil à tirer. Surtout s'il y a une dynamique un peu originale en Ukraine. Mais c'est très fragile. Je dis jamais que c'est facile, que ça va être fait. Je dis que c'est important de tenter ça. Et qu'aujourd'hui, si vous prenez le paysage européen et même occidental, la France, pas uniquement pour des références à un gaullisme ou un gaullo-mitterrandisme sur ces sujets, mais la France, objectivement, est le seul pays qui puisse tenter quelque chose. Après, il faut voir... à quel moment du processus sont associés. Les Allemands sont pas mécontents, à l'heure actuelle. Ils sont pas en état de le faire, ils sont pas mécontents que ce soit tenté, pour voir. Les Polonais sont contre et inquiets, les Baltes sont contre et inquiets, mais il n'est pas exclu qu'à un moment donné, ils entrent dans ce processus qui est, je prends la conférence SCE, mais les gens ont peut-être oublié, c'est la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, qui était une vieille idée française, à la fin de la période guerre froide, mais la période détente, qui a été un processus formidable qui était une sorte d'acide sur le système soviétique. Il faudrait reconstituer un cadre. Donc à chaque étape, tout ça doit se faire avec beaucoup, beaucoup de prudence et d'intelligence, mais sans être terrorisé par un manque de confiance en soi.
Alors, êtes-vous sensible à cet argument géopolitique, Galia Kerman?
Il me semble que, bien sûr, il aurait été très important de rétablir les traités qui limitent le réarmement entre les États-Unis et la Russie, probablement avec d'autres grands acteurs de la scène internationale. Mais cela ne règle pas en soi le problème de la sécurité européenne. Je comprends que le président Macron est un peu prise entre deux feux, on peut dire, parce que d'une part, les Américains, maintenant sous Trump, veulent l'Amérique great again et demandent que les Européens, grosso modo, s'occupent eux-mêmes de leur sécurité. Et de l'autre côté, il y a la Russie surarmée. Mais je ne vois pas dans la pratique quelle sorte de construction peut-on avoir avec un partenaire qui, en soi, n'est pas fiable. Et je vous donne l'exemple le plus évident de cette non-fiabilité, c'est le mémorandum de Budapest de 1994, quand il a été décidé, ça a été signé, mais d'ailleurs pas ratifié par la Russie, et c'est ce qu'elle fait assez souvent, qui garantissait à l'Ukraine l'inviolabilité de ses frontières en échange de son renoncement à l'arme nucléaire. Eh bien, nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui.
Bien, alors, un dernier mot, Hubert Védrine. Comment dialoguer avec un partenaire qui n'est pas fiable?
On le fait tout
Est-ce
le
que
temps.
C'est possible? On le fait tout le temps.
Je ne vais pas mettre les deux sur le même plan, mais il y a énormément d'accords internationaux que les États-Unis n'ont jamais signés ou alors jamais ratifiés, à commencer par la Cour pénale ou de la Convention sur le climat. Et c'est vrai, au Moyen-Orient, c'est évident. Enfin, ni Israël, ni les Pays-Arabes, ni l'Iran n'ont accepté des tas d'engagements. On ne peut pas négocier dans le monde réel. On ne maîtrise plus le monde. On n'est pas les maîtres du monde. Et on le croit moralement, mais en pratique, c'est pas vrai. Donc si on va négocier qu'avec les Suisses, si on raisonne comme ça.
Oui, mais enfin, bon.
En tout cas, le monde multipolaire pour lequel on a tellement, pour lequel la France s'est tellement battue, s'est avéré un monde extrêmement plus dangereux.
C'est une foire d'empoigne multipolaire.
Voilà.
Une foire d'empoigne multipolaire. Ben, ce sera une conclusion et un point d'accord entre vous. Alors, merci Hubert Védrine. Merci Galia Ackermann. Hubert Védrine, vous avez publié votre dernier livre, Contes à rebours. Comment conjurer les menaces. Et Galia Ackermann, nous n'avons pas pu parler de votre livre, Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine. C'est un livre absolument passionnant, qui part de cette réalité, les interminables cortèges qui défilent au son de chants patriotiques un peu partout en Russie pour célébrer la grande victoire de la Seconde Guerre mondiale. Et ces cortèges ont pour nom le Régiment Immortel. Et le livre est publié aux éditions Premier Parallèle. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Lire la Bruyère ». Mes invités seront Laurence Plazenet et Jean-Michel Delaconté. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard, Anaïs Isbert et François Connac. À la technique aujourd'hui, Pierrick Charles, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.